Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, une nouvelle révélation de Jésus. Chaque jour, une plus grande compréhension de l'Évangile. Chaque jour, encore plus d'émerveillement devant le Fils de Dieu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour, chaque jour, encore plus d'humilité dans nos cœurs, alors que nous prenons conscience de ta grandeur et du fait que nous qui n'avions rien mérité, nous avons tout reçu. Nous n'avons pas simplement reçu un château en Espagne, nous n'avons pas reçu une maison à Paris, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants. Oh, Sebahate Gari Shiki. Oh, Shekhande Setke Kando. Steke Hizintai. Oh Father, nous ne prenons pas ces choses pour acquises. Nous sommes tellement reconnaissants, tellement heureux, heureux d'être sauvés, heureux d'appartenir à Jésus, heureux d'avoir accès à Dieu, heureux d'avoir la capacité, la possibilité de nous présenter devant le Seigneur de toute la terre avec l'assurance que nous serons reçus. Wow, Father, we're so grateful. So grateful. So grateful. Et Seigneur, nous savons que les cieux proclament ta gloire. Mais nous voulons que tu saches que nous aussi, nous proclamons ta gloire. Ici sur terre, nous proclamons ta gloire. Chaque territoire où nous sommes, nous proclamons ta gloire. Donc, lorsque nous sommes dans nos maisons proclament ta gloire. Lorsque nous sommes au travail, notre travail proclame ta gloire. Chaque endroit où nous mettons les pieds, ta gloire sera proclamée. Ta gloire sera proclamée. Ta gloire sera proclamée. La terre, tu as donné aux fils de l'homme. Et ces fils de l'homme déclarent que cette terre appartient à l'Éternel. Et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Et ta gloire va remplir cette nation. Parce que ton peuple dans cette nation ne cessera pas de proclamer ta gloire. De proclamer ta gloire. Et d'amener ta présence partout où nous allons. Nous avons la ferme intention dans cette nation de faire jaillir la lumière de la gloire de l'Évangile de Christ. Et que les hommes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest viendront à la connaissance du Fils de Dieu. Père, nous te remercions. Ce que tu nous as confié, nous savons que tu vas nous trouver fidèles. Amen. Parce que ta grâce est abondante. Alléluia. Pour que nous puissions faire ce que tu nous as demandé de faire. Nous ne recevons pas que pour nous. Nous recevons pour les gens autour de nous. Nous recevons pour la nation. Et nous recevons pour les nations. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. Glory to God. Lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection, c'est une réalité. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et ce faisant, faites un grand sourire à la personne à côté de vous. Et dites-lui d'écouter attentivement la parole. Parce que sa vie est sur le point d'être encore révolutionnée. Glory to God. Dieu fait de très, très bonnes choses au milieu de nous. Je remercie ceux qui ont été fidèles à la prière hier pendant que nous étions au week-end de cours Racine. C'était bon le week-end du cours Racine?
Amen!
Alléluia, nous avons vu des vies changer. Je dis toujours aux gens que je n'ai vraiment aucun souci pour dire aux gens que Jésus change des vies parce qu'il le fait. Il le fait. Il n'y a aucune vie que Jésus ne change pas. Jésus change les vies et il le fait systématiquement. C'est son style, c'est son genre, c'est son modus operandi. Donc, on n'y peut rien. Il change les vies. Alléluia. Il a changé ma vie. Si vous saviez. Je vais vous lire un passage qui est long, mais je sais que vous aimez la parole de Dieu. Donc, vous n'allez pas vous endormir. Au contraire, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, vous allez être de plus en plus heureux. Thank you, Jesus. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre, 2 Corinthiens chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Je vais recommencer parce que je pense que vous n'avez pas compris. Vous avez le droit de vous réjouir. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu.
Amen.
Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. I will preach. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans son corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vous invite à méditer longuement ce passage. Il contient des trésors. N'allons pas évoquer tout ce que ce passage contient, mais je voudrais simplement aujourd'hui, alors que nous rappelons de nouveau la résurrection de Jésus, nous amener à méditer sur ce que Jésus a fait pour nous et sur la manière dont nous sommes censés vivre. Il y a un avant et un après Jésus. Et malheureusement, chez beaucoup de nous, d'entre nous, le après Jésus ressemble étrangement à le avant Jésus. Avec ceci de différent, le dimanche matin, nous avons d'autres occupations. C'est tout. Mais ce passage est un passage très poignant. Parce qu'alors que l'apôtre Paul est en train de parler de lui-même, de son ministère et du ministère qui est donné à chaque chrétien, de la vie que nous avons, ce que c'est que d'être enfant de Dieu, il termine en nous disant que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. En fait, son argument magistral pour dire voilà ce que vous êtes devenu et voilà comment vous êtes censé vivre, l'argument magistral dont il se sert, c'est celui-ci, que celui qui lui ne méritait pas la mort a été mis à mort pour vous. Celui qui ne méritait pas le mal a souffert le mal à cause de vous. Vous le méritiez, lui non, mais il a pris votre place. Et quand nous méditons sur la substitution, ce que les théologiens appellent la substitution, le fait que Jésus a été notre vicaire, il a pris notre place. C'est ce qu'il nous a dit par ailleurs dans Ésaïe, ce fameux passage d'Ésaïe que nous aimons tellement, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, tous. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tu peux venir? Est-ce que Miss Pizou peut venir? L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est nous, sous le poids du péché. Le poids, sous le poids, en train d'écrouler sous le poids du péché. Et ça, c'est lui. Ce qui est intéressant, écrouler, hein, c'est qu'il nous a dit qu'il était sans péché. Et nous le disons souvent que Jésus était sans péché. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'a jamais dit en mensonge. Pas une seule fois. Ça veut dire qu'il n'avait, il n'a jamais regardé quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre pour le convoiter. Pas une seule fois. Pas même une idée. Il n'a jamais eu de pensée négative. Nous venons de faire toute une série sur les pensées. Nous nous sommes tous identifiés, n'est-ce pas? Même nous, les plus vertueux, nous nous sommes identifiés et nous avons vu à quel point nos pensées peuvent être en champ de bataille. Jésus n'avait jamais eu une pensée négative. Pas une seule fois dans son enfance, quand sa mère lui disait, lui qui était le fils de Dieu, de faire quelque chose, il n'a rechigné. Les jeunes. Pas une seule fois. Pas une seule fois, il s'est dit, oh, il y en a marre dans cette maison. Pas une seule fois. Pas une seule fois, il n'a eu une parole de travers, pas un mot de trop, pas rien, aucune méchanceté, même provisoire. En 33 ans d'existence sur la terre. Pas une seule fois, il a eu une pensée de revanche. Pas une seule fois, il s'est dit, eux là. Et il s'est dit, oh, pardon, père, pardonne-moi, je suis sanctifié. Non, comme nous faisons. Pensez-y, il était sans péché. Non pas qu'il était pardonné, nous sommes pardonnés. Mais il était sans péché. Il n'avait pas besoin de pardon. En 33 années sur la terre, tout ce qu'il a dit était juste. Tout ce qu'il a pensé était juste. Tout ce qu'il a fait était juste. Il fallait cela pour que nous puissions être sauvés par son sacrifice, parce qu'il avait commis ne serait-ce qu'un seul péché, il n'aurait pas pu nous sauver. Il serait venu sous l'emprise du diable et il n'aurait pas pu faire le sacrifice nécessaire pour nous libérer de l'emprise du diable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous savons que Jésus est notre médiateur, mais il n'est pas que notre médiateur, parce que vous savez, quelqu'un qui lui aussi avait du péché, qui était pardonné, pouvait venir faire la médiation, n'est-ce pas? C'est comme parfois, lorsqu'on va dans les familles pour parler avec les parents, pour leur dire, bon, on sait que le jeune a fait des bêtises, mais vous lui pardonnez lui, etc. Parce que nous aussi, on en a fait et on sait ce que c'est. N'est-ce pas? Mais Jésus, pas, il n'est pas notre médiateur et parce que lui aussi a fait des choses mauvaises et il veut, bon, il faut comprendre, il faut le comprendre, il est jeune. Bon, on a tous fumé un peu de hashish par le passé, donc il n'a pas fumé du hashish. Et donc, on sait ce que c'est. Non. Sa médiation venait d'une position de pureté totale et absolue. Alors, quelqu'un comme ça, tout ce qu'on veut, c'est juste l'adorer. Voir sa pureté, dire, waouh, quelle pureté. C'est un peu comme l'autre jour, j'étais dans le métro, je voyais une femme derrière moi, elle avait une belle une veste blanche. Et je vois, wow, c'est joli cette veste blanche. Et tout de suite, j'ai vu les taches. Vous savez, quand on a une veste blanche, il faut faire attention. Il ne faut peut-être pas prendre le métro. Parce qu'il suffit de vous poser un petit peu et vous avez une tache avec toutes les mains qui passent par là. Et c'était belle, mais tout de suite, il y avait des petites taches. Même pas beaucoup, mais des petites taches. Et tout de suite, j'ai changé d'avis. Je ne voudrais pas une belle veste blanche comme celle-ci. Tout de suite, j'ai changé d'avis. Et quand on voit la pureté, tout ce qu'on veut, c'est que la pureté reste pure. Mais Dieu a vu la pureté de son fils. Il a dit justement, il faut salir cette pureté pour pouvoir enlever ce qu'il y a sur eux. Et donc, Jésus a été fait péché pour nous. Et Dieu a pris le poids qui était sur lui, sur nous. Et il l'a mis sur lui. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous comprenez? Le châtiment qui nous donne la paix, pas qui lui donne la paix, mais qui nous donne, parce que lui avait la paix, lui n'avait besoin de rien. Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, pas les nôtres, ce n'est pas nous qui avions été meurtris, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Celui qui était sans péché a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Merci, mesdames. Savez-vous quoi faire après? C'est pour la bonne cause. Lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il a été fait pécheur, ça veut dire tout simplement qu'il a été traité comme s'il était pécheur. C'est pour cela que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas juste qu'il a été fait pécher pour nous. Mais le but est quelque chose d'absolument extraordinaire. Le but, c'est que nous, maintenant, nous soyons déclarés justes alors que nous ne le sommes. Vous comprenez? C'est que nous, maintenant, dans tout ce châtiment qui devait nous revenir est tombé sur lui. Tout le traitement qui devait nous venir à cause de nos péchés a été mis sur lui. Nos péchés ont été ôtés, mis sur lui. Donc, il a subi la punition, le traitement, il s'est offert pour nous. Et cela nous a été ôté. Et en échange, nous avons été déclarés justes. En échange. Ça, c'est un échange divin. Un échange qui ne peut se faire que par Dieu lui-même. Et c'est ça le sens de l'évangile, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans ce passage. Et tout ce qui précède, c'est pour vous dire, voilà ce qu'il a fait, voilà la raison pour laquelle vous êtes maintenant une nouvelle création. Voilà la raison pour laquelle vous devez maintenant vivre pour lui, celui qui s'est donné pour vous. Maintenant, vous devez vous donner entièrement à lui. Et il y a... Plus notre compréhension de l'évangile grandit, plus notre consécration grandit. Plus il n'y a plus de limites ni de barrières à ce que Dieu peut nous demander. Parce que lorsqu'on nous pèse, nous, sur la balance, on ne pèse pas lourd. Tout ce que nous avons, c'est ce nom de Jésus. C'est cette vie de Jésus, ce sacrifice de Jésus dont nous bénéficions. Et le tout est lié à lui et à notre attachement à lui. Donc, quand on continue à avancer dans le Seigneur, on continue à comprendre la profondeur de l'évangile, du sacrifice de Jésus, de ce que ça lui a coûté, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel et émotionnel, ce que ça lui a coûté de quitter sa gloire, ce que ça a coûté au Père de laisser partir Jésus. Et on commence à comprendre pourquoi, quand on nous parle de la joie au ciel, c'est lié à un moment où quelqu'un sur la terre se convertit. Où une autre personne reçoit le bénéfice de ce que Jésus a fait. Une personne de plus est sortie des ténèbres. Une personne de plus reçoit ce pardon qui vient du sacrifice de Jésus. Une personne de plus est déclarée juste parce que Jésus a été fait péché pour lui. Et au ciel, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et les uns et les autres se réjouissent parce que yes, 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 yes. Et nous sur la terre, nous sommes indifférents parce que nous sommes ignorants. Ignorants. Mais Dieu nous délivre de l'ignorance. Vous n'êtes pas convaincus? Ah, il nous délivre de l'ignorance. Celui qui n'a point connu le péché, il n'a pas connu le péché. Ce n'est pas qu'il n'a pas dit bonjour au péché. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu le péché. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu les pécheurs. Il a vécu au milieu des pécheurs. Il était entouré des pécheurs. Partout, il allait des multitudes autour de lui, affligés avec des circonstances différentes, diverses et variées. Et Jésus le regardait et il avait de la peine pour eux. Il était en plein milieu du péché, mais lui-même n'en a pas commis un seul. Vous savez à quel point c'est difficile de finir une journée sans commettre un péché? Sans penser quelque chose avant de se ressaisir pour dire non, je ne penserai pas ça au nom de Jésus. Sans dire quelque chose au travers pour dire oh non, je suis sanctifié, je ne parle pas comme ça. 33 ans d'existence sur la terre. Et le bénéfice de cela nous est donné.
Alléluia.
Le bénéfice de cela nous est donné. Et ce passage essaie de nous faire comprendre que nous sommes sur la terre, nous sommes une nouvelle création, nous avons reçu cette vie de Dieu en nous. Notre destination, ce n'est pas la terre. Et c'est important de nous redire cela, parce que nous avons aujourd'hui, quand on entend parfois l'évangile prêché par certains, on pense que Jésus est mort pour que nous puissions vivre bien sur la terre. Et c'est la destination de la vie chrétienne. Non, non. La terre est un lieu de passage. Nous sommes censés vivre bien sur la terre, mais ce n'est qu'un lieu de passage, ce n'est pas la destination. Et il leur dit ici que même quand si ce corps physique est détruit, nous avons un autre édifice. Nous avons un autre édifice. Et c'est là notre destination. Nous allons ensuite revenir avec le Seigneur régner sur la terre, mais pas tout de suite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et j'aime ce qu'il dit ici, nous gémissons. Nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Il y a beaucoup de gens qui gémissent à cause de la pauvreté, beaucoup de gens qui gémissent à cause de la persécution, beaucoup de gens qui gémissent. Mais nous sommes en train de gémir parce que nous sommes désireux d'être auprès du Père. Est-ce que vous gémissez pour être auprès du Père? Ou est-ce que, Dieu, c'est loin tout ça. Je vais vivre jusqu'à 120 ans, ou le plus longtemps possible, hein, parce que le ciel, c'est de l'inconnu. À côté de Dieu, je ne sais pas si ça va être drôle. Là-bas, il n'y a pas le zouk love. Donc, on repense ça au maximum. Un maximum. On profite de la vie. Et ça, c'est la mentalité des chrétiens. C'est votre mentalité, changez-la. Ne partez pas demain. Nous sommes là parce que nous avons du travail à faire pour le Seigneur. Et nous vivons victorieusement parce que Jésus a remporté la victoire. Mais nous ne vivons pas comme si, il faut surtout pas que je parte jamais. Si je peux vivre, ce sera 300 ans, ce serait bien parce que là, avec Jésus, il va falloir être réglo là-bas. Nous gémissons. Nous avons besoin d'une autre génération de chrétiens proches de Dieu, qui aiment Dieu, qui savourent les choses du ciel, qui peuvent profiter des choses de la terre, mais sans y être attachés, sans en faire notre objectif dans notre vie chrétienne, sans en faire notre destination. Ces choses sont des outils que Dieu met à notre disposition sur la terre pour nos vies et pour faire avancer l'évangile. Ce n'est pas l'objectif de la vie chrétienne. Non, nous gémissons. Quand vous rentrez à la maison, parlez avec Dieu. Essayez de voir un petit peu, est-ce que je suis déjà gémi pour être auprès du Père? Est-ce que je gémis pour la présence de Dieu ou est-ce que c'est... Bon, quand est-ce qu'on va faire l'onction spéciale pour la dixième maison? Et pendant qu'on est en train de chanter Jésus, Jésus... Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Amen. Tu es merveilleux, Jésus. Glory to God. À Dieu maintenant la louange. Oh, j'adore le Fils de Dieu. J'adore le Fils. Et les gens de la louange. J'adore. Oh, le Fils de Dieu. Chante mal maintenant, les filles. Est-ce que nous gémissons? Quelque chose en moi qui crie. Et il dit. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire cela? Que nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur? Et c'est l'apôtre Paul qui dit, moi j'ai envie de m'en aller pour être avec Jésus, mais à cause de vous je vais rester. Est-ce que vous avez le désir d'être avec le Seigneur? Elle dit quand même, je vais rester parce que je sais qu'il veut que je reste et là du travail pour moi sur la terre. Mais si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à moi, tu ne pourras pas me laisser ici parce que je vais être avec toi. Ça, c'est être chrétien. Quand nous avons compris que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus, afin que nous puissions être considérés comme étant justes. Que Dieu, en dépit de tout ce qu'il a vu en nous, parce que vous savez, nous, quand les gens commencent à confesser leurs péchés, je pensais que j'étais mauvais. Décidément, Dieu fait grâce. Il a fait ça. Il a volé combien? 2 millions d'euros. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Mais Dieu, lui, qui a tout vu, il a vu quand nous avons commis ces actes. Il a vu quand nous les avons médités. Il a vu chaque mensonge, chaque duplicité, chaque faux semblant. Il a tout vu. Chaque trahison. Tout. Il a assisté à chaque scène. Et il a permis que son fils, qui lui était sans péché, souffre le châtiment pour nous. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Seigneur, ouvre nos yeux. Et il nous explique qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Nous voulons partir, nous voulons être auprès de lui, nous gémissons parce que nous aimons tellement Dieu que... Mais nous restons parce que nous avons quelque chose à faire sur la terre. Mais il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est comme lorsqu'on donne un dépôt de garantie. Ça préfigure tout le reste qui va venir. N'est-ce pas? Et on peut déjà dire, on a cette vie de l'esprit ici maintenant. Qu'est-ce que ça va donner après? C'est mieux que le Zouk Love. Qu'est-ce que ça va donner après? Du Seigneur. Et dans la communion avec son esprit, on est tellement porté par la bonté de Dieu, on a tellement envie d'être... Seigneur, je ne peux pas venir maintenant. Non, tu ne peux pas venir maintenant. Ok, bon, d'accord. Nous gémissons. Il nous a donné les arts de l'esprit. Et c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous explique, il y a un jour de jugement aussi dans tout ça. Il y a une destination, c'est la présence de Dieu, le ciel, devant le Père, mais nous allons passer devant la cour de Jésus, le tribunal de Christ. Vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que il n'y a pas de circonstances atténuantes en fait à invoquer devant le tribunal de Christ, où nous allons rendre des comptes pour la vie que nous avons vécue sur la terre. Parce que ce qui nous permet de vivre la vie de Dieu sur la terre a été fait par Dieu lui-même. Vous comprenez? Ce n'est pas que Jésus est resté au ciel pour dire, bon, débrouillez-vous, soyez purs, soyez merveilleux, vous n'avez pas le choix. Vous allez passer devant moi et je vais vérifier. Non, Jésus est venu sur la terre. Il est venu et il a pris notre condition. La parole de Dieu dit dans Hébreux que parce que nous étions chair et sang, lui aussi s'est fait chair et sang. Il a pris notre condition. Et donc, il a été fait péché pour nous. Et donc, nous allons un jour rendre des comptes devant lui. Celui qui a été fait péché pour nous. Celui qui nous a donné le passeport du royaume des cieux. Nous allons donc nous tenir pour dire, ok, la vie que tu nous as donnée, le sacrifice que tu as fait, les souffrances que tu as endurées, voilà ce que ça a donné dans ma vie. Voilà ce que j'ai fait de ce que j'ai reçu gratuitement de toi. Et vous comprenez, ce n'est pas, c'est ça qui est intéressant devant le tribunal de Christ. Parce que ce n'est pas simplement qu'on va se tenir devant le Père, mais on va se tenir devant celui-même qui est venu sur la terre. Envers celui-même qui a été traité avec ignominie, qui a été traité comme un coupable alors qu'il ne l'était pas. Nous allons nous tenir devant lui pour dire, bon, c'est vrai, nous avons accepté ton salut. Mais en fait, il faut dire que, merci pour le salut. Rien d'autre? Rien d'autre? Qu'est-ce que cela a accompli dans ta vie? En quoi cela a changé ta vie terrestre? Quelles sont les choses que tu m'amènes comme offrande à la suite de ce que j'ai fait pour toi? Devant le tribunal de Christ. Dieu est miséricordieux. Parce qu'il nous a donné les moyens de faire. Dieu est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est vraiment bon. Mais il nous rappelle aussi que nous allons rendre des comptes pour nos vies sur la terre. Nous allons rendre des comptes. Qu'est-ce que nous avons fait? Et j'ai trouvé intéressant d'ailleurs que dans la dernière semaine de sa vie sur terre, Jésus a beaucoup enseigné. Et l'un des enseignements qu'il a donné était sur le maître qui avait donné des talents à ses serviteurs et qui devait les faire fructifier. Et on connaît l'histoire, on sait que la performance était inégale et il y en a un qui carrément s'est soustrait à l'équation, a estimé qu'il n'avait rien à faire, que, sauf lui rendre les choses qui lui ont été données telles quelles. Et c'est à la même occasion que Jésus a donné la parabole des 10 vierges, des 5 qui ont veillé et des 5 qui n'ont pas veillé. Et tout cela avant de partir, pour nous amener à réfléchir sur le fait que ce que nous allons recevoir de lui est le point de départ, mais qu'il y a une façon de vivre sur la terre après avoir reçu de lui. Au verset 9, il dit ceci, c'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ça, c'est une phrase qui est vraiment le leitmotiv de ma vie. Être agréable à Dieu. Vivre de manière à plaire à Dieu. Vivre de manière que le sien. Nous prions pour que vous puissiez vivre de manière qui est agréable à Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit avoir cela comme sa considération première. Avant de dire, Seigneur, fais ça, ça, ça et ça pour moi. Non, d'abord, Seigneur, je veux vivre d'une manière qui t'est agréable. Que mes pensées, mes paroles, mes actes soient agréables. Et c'est la deuxième question que je vous pose. La première, c'est de savoir si vous gémissez pour être auprès du Seigneur. La deuxième question, c'est de savoir si vous avez comme préoccupation d'être agréable à Dieu. Parce que c'est ce qu'il nous a dit ici pour notre vie sur la terre. Est-ce que nous avons cela dans nos cœurs, d'être agréables à Dieu? Et quand il parle, en fait, du fait qu'il faut comparaître devant le tribunal de Christ, verset 10, il poursuit cela en disant, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Il y a un lien entre les deux. Le fait de passer devant le tribunal de Christ, c'est de chercher à convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre les hommes de quoi? Nous cherchons à les convaincre de qui est Jésus. Nous cherchons à les convaincre de l'évangile. Je parlais avec quelqu'un avant-hier. Hier, c'était le samedi de cours racine. Avant-hier, je parlais avec quelqu'un, je revenais d'un endroit et quelqu'un me disait, et on commençait à parler de... J'avais fait une réunion où les gens étaient... en train de parler de leur science particulière. Je disais, mais en fait, ces gens, ils sont en train de prêcher leur évangile. Et il m'a dit, oui, effectivement, ils font du prosélytisme. J'ai dit, effectivement. Et les gens accusent les chrétiens de faire du prosélytisme. Donc, je lui disais qu'il était, m'était même arrivé un jour à Bruxelles, des gens qui me disaient, qui critiquaient le pape, voilà, qui voulaient savoir ce que je pensais du pape, le pape précédent, qu'est-ce que je pensais du pape, et qui n'ont même pas attendu pour savoir ce que je pensais du pape. Les gens me demandent toujours ce que vous pensez du pape, même dès qu'ils savent que vous êtes chrétien. Et oui, parce que ils ont commencé à le critiquer du fait qu'il faisait du prosélytisme. Je dis, mais vous exagérez quand même. Vous exagérez. Si le pape ne peut pas faire du prosélytisme, qui peut faire du prosélytisme? Mais il faut arrêter. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer. Et l'autre a dit, oui, de toute façon, les hommes politiques font du prosélytisme. Il dit, plus que les hommes politiques, tout le monde en fait. Dit, dans la vie, on cherche toujours à convaincre les gens de quelque chose. Chaque émission que tu regardes, il y a quelqu'un qui cherche à te convaincre de quelque chose. Chaque livre que tu lis, il y a quelqu'un qui cherche à te convaincre de quelque chose. Chaque film que tu regardes, il y a quelqu'un qui cherche à te convaincre de quelque chose. Dans chaque conversation, quelqu'un cherche à te convaincre de quelque chose. Donc, je lui ai dit, allez, il faut qu'ils arrêtent de déranger les chrétiens et les gens qui sont religieux parce que nous avons l'intention de les convaincre et nous allons le faire. Je dis donc, si tous ces gens et si toute l'entreprise humaine de toute façon implique essayer de convaincre les gens de quelque chose, de quel droit les gens essaient de nous empêcher nous d'essayer de les convaincre? Je dis donc, je revendique le droit de me tenir au coin de la rue et de leur donner des tracts. Je revendique le droit de mettre devant eux et de leur parler de Jésus parce que eux me parlent d'autre chose et en me parlant d'autre chose, ils cherchent à me convaincre. Donc, je lui explique, lui n'est pas chrétien, bien sûr, mais je lui explique donc que j'encourage toujours les gens autour de moi à ne pas se laisser intimider par les non-chrétiens. Amen. À ne pas se laisser intimider du tout par les non-chrétiens et à parler de Jésus partout. Parce que les gens qui ne croient pas en Dieu parlent de leur absence de foi partout. Exactement. Moi, je suis athée. Ah, moi, je suis chrétien. Enfin, je crois que Jésus est le fils de Dieu. Oui, il ne faut pas prêcher. Non, mais je ne te prêche, je te parle de ce que je crois. Tu m'as parlé, tu m'as parlé de ce que tu crois. C'est simple. Donc, la parole de Dieu dit, nous cherchons à convaincre. Amen. En tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous sommes censés non pas avoir peur de ce que les gens nous taxent de faire du prosélytisme, mais il faut qu'ils disent que nous faisons du prosélytisme, parce que si nous ne le disons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas obéissants, que nous ne cherchons pas à convaincre. Amen. Et si nous sommes persuadés que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous, pas que pour moi, mais pour l'humanité tout entière, et que cette porte de salut est ouverte pour tous les hommes, pourquoi nous ne chercherons pas à les convaincre? Est-ce que nous en sommes persuadés? Lorsque j'étais jeune convertie, j'étais plein de zèle. Et à un moment donné, le diable a commencé à m'attaquer par tous les moyens. J'ai déjà partagé avec vous certaines de ces attaques. Et une autre des attaques, c'est que tout d'un coup, je commençais à me sentir bizarre. Alors qu'avant, j'étais, ah, t'es pas né de nouveau, oh, you're not born again, you need to get saved. J'étais vraiment, comme on dit, in your face. Et à un moment donné, je commençais à me sentir gênée, je commençais à avoir l'impression que, oh, moi, je suis dans ce truc-là, je peux pas m'en sortir, j'ai pas amené d'autres dedans. Et je ne comprenais pas d'où me venaient ces pensées. Et le diable essayait de me convaincre que je m'étais trompée, que je m'étais mise dans un truc bizarre, et que, ben voilà, mais toi, t'es cuit, t'es dedans, faut laisser les autres tranquilles. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point le diable est tordu? Et si on se laisse faire, il peut nous amener loin. Passer de la personne qui était « Alléluia, Jésus est Seigneur, convaincu !» Oh là là, je me suis mise dans un truc bizarre. Oh là là. Et j'étais presque arrivée à penser que « Oh, les autres, oh, ils ont de la chance, eux, ils ne sont pas rentrés dans ça. » Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pour cela que dans toute cette série sur la révolution mentale, je vous dis, méfiez-vous des pensées qui vous viennent. D'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Certaines de nos pensées, ça sent le soufre. D'où viennent-elles? Ne pas dire, oui, mais moi, je pense que... Non, le diable pense qu'il t'a convaincu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sorti de là, il m'en a libéré. Et j'ai compris. Vous savez comment c'est quand vous sortez dans tout... Et j'ai compris que c'était vraiment une attaque terrible contre mes pensées et contre ma vie, contre ma destinée et tout ce que vous voulez. J'ai dit, Satan, tu vas voir. Je vais prêcher l'évangile partout.
Amen.
Alléluia. Amen. Nous ne nous laissons pas intimider. Nous cherchons à convaincre les hommes. C'est une partie normale de notre vie chrétienne. Et quand nous allons nous tenir devant le tribunal de Christ, nous allons devoir rendre compte, est-ce que nous avons cherché à convaincre? Est-ce que nous avons estimé suffisamment le sacrifice de Jésus pour faire en sorte, pour faire notre part, pour que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances? Parce que nous savons qu'il y a de la joie au ciel à chaque fois que quelqu'un est converti. Est-ce que nous avons participé à provoquer cette joie? L'apôtre Paul dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Quand on vous dit, tu fais du prosélytisme, oui, je cherche à te convaincre. Parce que je suis convaincu. Si nous sommes convaincus, nous chercherons à convaincre. Et j'aime beaucoup, au verset 13, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. C'est pour ça que je peux traduire aussi, si je suis insensé. D'autres termes, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Et à un moment donné, un chrétien doit être mort à sa réputation. Nous sommes trop sensibles et trop susceptibles. Oui, ils vont penser ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas leur pensée qui soutient l'univers. C'est Christ qui soutient l'univers. Je préfère être en phase avec Jésus que d'être en phase avec eux et être en désaccord avec Jésus. Nous devons mourir à nos réputations. Je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Mais il est fou, ce pauvre. Imaginez les gens avec qui il était, les autres pharisiens, qui l'ont vu changer radicalement de camp. Et il ne s'est même pas converti comme beaucoup de gens le font et qui deviennent très cool, très calmes à l'église. On ne sait jamais dans leur famille qu'ils sont convertis. Ah non. Leurs amis d'antan ne savent pas que leur vie a changé. Ah non. Oui, mais tu comprends, parce que dans mon milieu, si les gens viennent à découvrir, ils risquent de s'imaginer, ils peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Un enfant de Dieu vivant sur la terre doit mourir à sa réputation. Il pense que tant mieux pour eux. Quelqu'un me disait une fois, il m'a vu, je vous ai déjà raconté cette histoire, a pris le train avec moi, m'a vu dans le train, s'est assis, et m'a dit, ah, je suis content de te voir, je suis content d'être avec toi, j'aime être avec toi. Il m'a dit, avec toi, je me sens en sécurité. Il m'a dit, mais tu sais ce qu'ils disent de toi? Dans notre milieu professionnel, à l'époque, j'ai dit, non, je ne sais pas. Ah, ils disent que tu en fais trop, ce truc de religion. Ah, c'est super. C'est super, parce que moi, ils savent qui je suis. Donc, le jour, ils ont besoin de savoir qui est Jésus, ils sauront vers qui venir. Le jour, ils ont besoin de prier, ils vont pas dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Mais c'est, bon, là, je vais aller la voir. Et ça a commencé à se produire. Les gens ont commencé à venir me voir en secret, demander la prière. Au point où je vous ai raconté celui qui disait qu'il était athée, qui a fini par dire un jour publiquement, oui, on dit tous qu'on est athée, mais on va tous lui demander de prier pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons mourir à notre réputation. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Oui, mais tu es devenu bizarre, c'est pour Dieu. Oui, mais tu es devenu étrange, c'est pour Dieu. Mais tu regardes les mêmes films, c'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Cela a des conséquences sur notre destinée éternelle, mais cela a des conséquences sur notre vie terrestre. Et les conséquences ne sont pas simplement que notre compte en banque sera mieux garni ou que tout le monde va nous trouver merveilleux. Mais je ne comprends pas, depuis que je suis devenue chrétienne, les gens ne m'aiment plus comme avant. Mais c'est normal. Si Jésus a dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Ah, c'est intéressant, les gens qui disent, ouais, Jésus, on aime, c'est les chrétiens. Mais si tu connaissais vraiment Jésus, tu aimeras aussi les chrétiens. Parce que quand on connaît vraiment Jésus, et qu'on comprend qu'il a été fait péché pour nous, que lui a aimé les chrétiens et les non-chrétiens. Comprenez? Lui nous a aimés tels que nous sommes, nous devenons comme lui, nous aimons les gens tels qu'ils sont. Avec toutes leurs imperfections. Oui, mais moi, c'est moi et le Seigneur, parce que les églises, ça c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que quand on aime le Seigneur, on aime ses églises. Et on aime son église, avec toute son imperfection. Et on regarde les autres, on dit, ah, c'est comme ça que Dieu me voit et m'aime. Donc, je vais les aimer aussi avec toutes leurs imperfections. Dieu change avec l'amour ou pas avec la haine. Nous ne pouvons pas être un facteur pour bâtir l'église si nous n'aimons pas l'église. C'est devenu très courant dans notre génération. Nous pouvons tous faire notre culte sur Internet. Oui, mais les églises. Et quel est ton rôle pour bâtir l'église? Nous aimons Jésus. Parce que nous aimons Jésus, nous aimons ce que Jésus aime. Glory to God. Et les parents qui sont ici, est-ce que vous aimez les gens qui vous aiment mais qui n'aiment pas vos enfants? Même si vos enfants se comportent mal. Oh non, Pierre et Jacques. Ah, Pierre, non, pardon. Pierre et Jeanne. Pierre et Jeanne, vous êtes super. Mais vos enfants? Oh. Et vous jamais voir vos enfants? Jamais. Jamais. Oui, et vous dites, oui, non, mais ils ont 12 ans maintenant, donc ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Oui, 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 mais bon. Ils s'appellent comment déjà? Jeannette et Pierrette? Oh, oui, oui, bon. Pff. Oui, mais il y a un truc, je n'aime pas leur tête. Comment vous vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que le Père doit ressentir? Qu'est-ce que Jésus doit ressentir? Donc, tous ces chrétiens qui passent leur temps à casser le sucre sur l'Église. Qu'est-ce que Jésus doit ressentir? Mort à notre réputation. Nous ne jugeons plus les gens par l'apparence extérieure. N'est-ce pas? Nous fonctionnons plus selon... Et la parole de Dieu, nous ne sommes plus ni hommes, ni femmes, ni grecs, ni juifs. Non, nous sommes en Christ. En Christ. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'il nous dit que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc Jésus, notre vicaire, a pris notre place. Il est mort. Et il s'est considéré comme si nous aussi nous étions morts. Il est ressuscité. Nous aussi nous sommes ressuscités. Il est assis à la droite du Père. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Quelle générosité divine! Quelle générosité! Dieu a réellement misé sur nous. Il nous donne son salut gratuitement et il s'attend à ce que nous vivions sur terre conformément à son cœur et que nous participions à ce que d'autres soient convaincus. Nous participons à ce que d'autres viennent à la connaissance de Christ. Et souvent, nous recevons, « Ah, Seigneur, tu es merveilleux, je suis béni, je suis heureux. Moi et ma famille, nous sommes bénis. Quant à mon voisin, c'est sans problème. » Nous avons traduit l'égoïsme en valeur chrétienne. Ah, c'est Jésus et moi. Oh, glory to God, je suis béni. Non. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire littéralement que maintenant, nous sommes censés vivre exclusivement pour Jésus. Et ça change toute notre conception de la vie, n'est-ce pas? Ça change toute notre idée de notre existence. Ça change toute notre manière de concevoir notre rôle sur la terre et même de concevoir les choses qui sont bonnes et mauvaises. Parce que si je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi, il y a certaines choses que je ne vais même pas imaginer faire parce que je sais que Jésus n'aurait jamais fait ces choses et Jésus ne les aurait jamais approuvées. Si je vis pour lui, il y a des questions que je ne me pose plus. Quand je vis pour moi, comme nous faisons souvent, je vis pour moi et en plus, Dieu vit pour moi. Je me sens en droit de faire ce que je veux, ce qui m'arrange moi, quand ça m'arrange moi, selon les idées que j'ai moi. Et si Dieu est vraiment bon, il va bénir. Et si je ne vois pas que Dieu est dans l'affaire, je considère qu'il n'est pas bon avec moi. Et où est Dieu? Après tout, un tel et une telle et un tel, alors pourquoi moi? Parce que je vis pour moi. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Nous devons maintenant vivre pour lui. Troisième question, est-ce que vous vivez pour lui? Est-ce que vous avez réellement pris la décision de vivre pour lui? Ou vous vivez pour vous et pour tout ce que Dieu peut faire pour vous? Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet échange divin, on ne perd rien. Oui, on perd. On perd la bêtise. On perd la myopie. On perd la stupidité. On perd l'ignorance. Et on gagne la vie. On gagne la vie. Maintenant qu'on s'accroche à la bêtise, à la stupidité, on pense que ça, c'est des valeurs. Voilà. Oh. Yes. Ça, c'est une vie que Dieu bénit. Non. Dieu n'est pour rien. Nous vivons pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre pour lui aujourd'hui? Nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui. Nous devons être des créatures nouvelles sans passé. Nous n'avons plus de passé. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Non seulement nous n'avons plus de passé, mais Dieu nous libère de tout ce que le passé a déposé en nous. Tout. C'est ça qui est merveilleux. C'est tout. Il n'y a pas de limite à sa capacité d'action. Pas de limite. Il nous libère de tout ce que le passé a déposé en nous. Et ensuite, il dépose en nous sa parole. Au verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Vous voyez un peu, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, ce que Dieu a fait à travers Jésus, c'est réconcilier les gens avec lui. N'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce n'est pas juste qu'il a réconcilié les hommes avec lui-même, mais il s'est arrêté là. Non, il a réconcilié les hommes avec lui-même, avec le sacrifice de Jésus. Et pour amener cela à l'existence sur la terre, il a mis en nous la parole de réconciliation. Il a mis en toi la parole de réconciliation. Il a mis en toi la parole de réconciliation. Ma question maintenant est celle-ci. Est-ce que cette parole est entendue? Est-ce qu'elle est dite ou elle reste en vous? Je vais terminer avec cela. Au verset 18, il dit ceci. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous savez que vous avez un ministère? Et ce n'est pas le chant. Ce n'est pas non plus l'intercession, c'est la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. J'aime cette expression. J'aime cette expression. Pendant des années, depuis de longues années, je travaille dans un milieu international où il y a des ambassadeurs qui représentent leur pays. Ce qui est intéressant, c'est que la vision que les gens ont de certains pays, des pays de façon générale, est souvent liée à leur ambassadeur, à l'action et à la personnalité de leur ambassadeur. Il y a certains contextes où c'est plus le poids économique d'un pays qui joue, mais il y a d'autres contextes. Et j'ai déjà vu des situations. Il y a par exemple une situation où il y a un tout petit pays d'Afrique qui, pendant longtemps, dans une grande organisation internationale ici à Paris, avait un ambassadeur qui était un homme très cultivé, un homme qui parlait 3 ou 4 langues, dans le Yoruba, glory to God. Et au moins 4 langues, qui parlait au moins 4 langues, et qui avait vraiment une présence, une personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, son pays a eu des postes assez élevés au sein de l'organisation qui ne correspondaient en rien au poids de ce pays, mais qui étaient surtout liés à la personnalité de cet homme. Et vous voyez souvent lorsqu'on va, quand un ambassadeur prend la parole, on ne dit pas Monsieur Antel prend la parole. On dit la France prend la parole. Le Royaume-Uni prend la parole. Quand on lui donne la parole, on dit on donne la parole à la France. On ne dit pas on donne la parole à Madame Intel avec de longs cheveux, avec de beaux yeux. Non, ça n'a rien à voir. On donne la parole à la France. On donne la parole au Royaume-Uni. On donne la parole au Bénin. On donne la parole au Cameroun. Est-ce que vous me suivez? Et ce que ce pays va réussir à faire va souvent être lié à la personne qui le représente. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. La perception que les gens vont avoir de Jésus et de l'Évangile sera liée à la perception qu'ils ont de vous. Non pas sur le fait que vous faites du prosélytisme, non, mais sur votre caractère, votre façon de vous comporter, de parler, d'agir. J'ai connu quelqu'un il y a des années à qui je parlais du Seigneur, qui était quelqu'un de très haut placé dans son pays. Et je l'avais rencontré en compagnie de quelqu'un d'autre. Et ça ne passait pas. Il me disait, ouais, le chrétien, c'est ça. Il me dit, c'est mon ami là avec qui tu m'as rencontré. Je dis, oui. Ben, il est chrétien aussi. Et je savais parce qu'on avait discuté du Seigneur. Il dit, mais tu sais, ils veulent comme moi. Tous, ils sont nombreux dans mon bureau qui disent qu'ils sont chrétiens. On reçoit tous des pots de vin. Et pire, eux, ils partagent même pas. Moi ou moi, je partage. Et leurs secrétaires viennent me voir quand elles ont des problèmes. Tous ces chrétiens-là, ils font rien pour leurs secrétaires. Ils prennent tout l'argent et mettent dans leur poche. Ambassadeur pour Christ. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines. Le nombre de gens qui ne sont pas venus à Christ ou qui se sont éloignés du Seigneur parce qu'ils ont vu un mauvais exemple de quelqu'un qui disait qu'il était chrétien. Oui, mais si lui peut faire ça, moi aussi. Et nous allons rendre des comptes. Il est dit ici pour ce que nous avons fait, bon ou mauvais. Et le nombre de personnes que nous avons éloignées de Jésus à cause de notre façon d'être et de vivre. Non pas à cause du fait que nous témoignons et qu'ils ne nous aiment pas. Parce que souvent les chrétiens nous disent, oui, mais je veux garder un bon témoignage. Un bon témoignage, vous l'ont dit, ne pas avoir témoignage du tout. Je veux garder un bon témoignage, je veux dire, je ne vais pas du tout parler à Jésus pour qu'il m'aime. L'objectif, ce n'est pas qu'il t'aime. L'objectif, c'est qu'il soit confronté à ton intégrité. Ils peuvent ne pas t'apprécier, ils peuvent trouver que tu parles trop de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais il faut qu'ils voient l'intégrité et la droiture et la pureté de vie. Et pendant des années, ils peuvent voir, ouais, mais c'est une intégriste. Intégriste? Intègre? Oh, elle en fait trop sans Dieu. Mais ils vont... Ah oui, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'elle est droite. Elle est honnête. Alors ça, non. Nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur communique au nom de son pays. Est-ce que vous communiquez au nom du vôtre? Pas du Rwanda, mais du royaume de Dieu. Dieu a déposé sa parole en nous. Parce que Dieu touche des vies et il change des vies aujourd'hui. Nous avons vu ça pendant le week-end de Koura. C'est vrai ou faux? Mais il faut des gens qui vont dire, je suis un ambassadeur. Non pas des gens qui vont regarder les personnes. Et j'ai vu ça pendant des années dans l'église. Regarder des personnes qui sont dans le monde et qui vivent des vies terribles. Et les regarder et dire, vraiment, les païens. Oh, la grâce de Dieu. Comme quoi, quant à nous, sanctifiés, délivrés. Heureusement que Dieu a des gens comme nous. Parce que s'ils regardent la France, ils voient tous ces gens-là, avec leurs lois iniques, leurs comportements terribles. Heureusement pour lui que nous, on est là. Non, nous sommes des ambassadeurs. Et Dieu a la ferme intention d'amener des multitudes à sa connaissance. Tout ce qu'il demande, c'est vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Remercions le Seigneur.